Pour la table des gourmands ce soir, j'ai eu la chance de rencontrer le navigateur Yvan Bourgnon à Morges. C'est autour d'un café dans un restaurant du bord du lac que nous nous sommes retrouvés. Il arrivait de Lyon pour la promotion de son film et devait repartir une heure plus tard pour la montagne afin de continuer la présentation de son long métrage En équilibre sur l'océan. Yvan Bourgnon est un passionné, un gladiateur des mers. Il a parcouru en 2017 plus de 7500 km, est resté 2 mois sur les océans Pacifique et Atlantique, a traversé le Grand Nord canadien afin de boucler le passage du Nord-Ouest en solitaire sur un catamaran sans habitacle ni assistance. Il est donc devenu ce vendredi Vendredi 22 septembre 2017, le premier skipper à accomplir ce défi de la sorte. Un autre défi qui lui tient à cœur, c'est la prévention contre la pollution en mer. Grâce à l'action de Sea Cleaners, il compte vite repartir à bord du catamaran Le Manta, son projet de bateau révolutionnaire afin de nettoyer les océans.
La table des gourmands. Jusqu'à 19h.
Yvan, depuis votre plus jeune âge, vous êtes passionné par la mer, par l'envie d'évasion. À quel âge vous êtes-vous dit « je serai navigateur et je ferai tout ce qui est en ma possibilité pour réaliser mon rêve » ?
En fait, je ne me suis pas trop posé la question parce que j'ai eu surtout la chance d'avoir des parents qui étaient certes chaudefonniers et qui n'étaient pas voués à la mer, mais qui nous ont emmenés quand même faire le grand pas et faire le tour du monde en famille. Et c'est vrai que quand on vit pendant 4 ans comme ça autour du monde sur un voilier et qu'on apprend à pêcher, on apprend à faire la navigation au sextant, on apprend à vivre au gré des îles, au gré des escales, au gré de la mer, ça devient tellement son quotidien, ça devient tellement naturel d'être en mer, qu'on ne se pose pas la question. Moi, je me suis toujours dit, ma vie, ça sera sur l'eau, ça sera en mer, ça sera avec les étoiles, ça sera dans un univers comme ça. Ce qui n'était pas normal pour moi, c'était de voir tous ces gens travailler dans les bureaux. Là, c'est ça que j'avais du mal à comprendre. Mais voilà, moi, c'était effectivement, mon destin était relativement tout tracé dès le départ.
Qu'est-ce qui est essentiel, en plus, je suppose, de savoir nager, quand on veut, comme vous, devenir navigateur ?
Je ne sais pas nager, donc je commence à savoir un peu mieux. Donc vous voyez, il n'y a même pas besoin de savoir nager pour aller faire du bateau. Il y a plein de marins qui ne savent pas nager correctement. Et non, ce qu'il faut, c'est vraiment un sport et une passion qui est tellement complète, qui fait appel à tellement de sens, à tellement d'apprentissage, il y a la technique, il y a la technologie, il y a le sens marin, il y a l'intuition, il y a la sensation du vent, il y a des tas d'éléments qui font que, en fait, t'as beau aller à l'école, tu pourras beau aller prendre des cours, tu pourras beau faire tout ça. Le meilleur apprentissage, c'est de pratiquer, c'est d'être sur l'eau, c'est d'enchaîner des navigations. Donc, c'est vrai que tous ceux qui veulent se lancer, c'est pas compliqué. Maintenant, il y a des bourses aux équipiers, il y a des tas de solutions pour embarquer sur des bateaux, même avec un modeste bagage et en naviguant, en enchaînant les navigations, tu apprends forcément. Alors évidemment, il faut avoir la passion, il faut avoir l'envie, mais voilà, et c'est vrai que c'est un sport d'expérience où c'est vraiment le cumul des années qui fait que finalement, nous, on est plus au top dans notre sport à 40 ans qu'à 22. Quoi.
Et puis, dès le départ, votre entourage vous a-t-il soutenu ou alors retenu, ou y a-t-il eu des conseils où ils ont toujours été d'accord ?
C'est vrai que quand tu as des parents déjà qui t'emmènent dans leur propre aventure étant jeune, c'est vrai qu'ils auraient du mal après, à coup, à dire « Non, les enfants, ne faites rien ». Maintenant, ils ne s'attendaient pas effectivement à ce que je fasse des choses aussi extrêmes. Et c'est vrai que pour ma petite mère, ça a été très compliqué à vivre, tous ces défis extrêmes à l'autre bout de la planète. Et je dois dire que voilà, moi-même qui est parent maintenant, j'ose pas imaginer mes enfants faire la même chose. J'espère que ça ne sera pas le cas. Et voilà, mais ils n'ont jamais freiné. Ils m'ont toujours mis évidemment des prudences et des inquiétudes, mais ils m'ont laissé vraiment dérouler ma vie comme je l'entendais, et ça je le remercie vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui empêchent leurs enfants dans leur passion. Et ça, de ce côté-là, même si ça a été des gros moments de galère au niveau financier, notamment au début, ils ne m'ont pas coupé la route, quoi.
Et puis, est-ce que vous vous êtes dit, justement, parfois, lors de vos exploits, que vraiment, c'était une folie ?
Sur le dernier défi dans le Grand Nord, effectivement, le premier passage nord-ouest à la voile, là, en solitaire, c'est clair que je me suis dit ça à plusieurs reprises. Et voilà, donc, autant sur le tour du monde, j'ai vraiment eu des grands moments de plaisir. Quand tu te retrouves à surfer ta vague pendant 3 semaines sur ton bateau sous les étoiles, c'est des moments magiques. Tu as les dauphins qui t'accompagnent. Oui, c'est certes des moments difficiles, mais tu donnes du sens, en fait, fait à ton voyage et même si c'est extrême. Alors que là, dans le Grand Nord, effectivement, là, pendant la deuxième moitié, ça a été très compliqué du matin au soir, et tout le temps bloqué dans les glaces, tout le temps avec la mort qui était très proche, avec l'eau froide, l'eau glacée, le bateau qui était prêt à se faire broyer par les glaces tout le temps, avec ces tempêtes exceptionnelles de plus de 120 km/h. C'est clair que j'étais dans un univers très très hostile et avec des conditions météorologiques hors normes qui n'étaient pas du tout prévues comme ça. Et donc du coup, ça m'a remis en cause. J'ai vraiment navigué pour la première fois de ma vie avec la peur au ventre. Et voilà, là, c'est vrai qu'ayant une famille, des enfants, ayant perdu mon frère il y a 2 ans, c'est clair que j'avais une responsabilité de revenir à terre. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça c'était un peu ambivalent d'avoir à la fois tout ce danger et cette nécessité de revenir à terre. Alors qu'avant, j'avoue, sur notamment le Tour du Monde, j'avais une espèce d'insouciance et je ne craignais pas du tout la mort.
Vous aviez moins peur que dans l'Arctique?
Oui, parce qu'en fait, quand tu navigues dans l'eau chaude, quand tu fais un Tour du Monde, tu te dis, oui, ça peut mal se passer, tu peux disloquer ton bateau, tu peux avoir des problèmes techniques, tu peux galérer, mais finalement, il y aura toujours des secours qui pourront venir, même si tu es dans l'eau. Tu peux survivre quelques jours dans l'eau chaude. Là-haut, dans le Grand Nord, en fait, tu te retrouves avec un bateau disloqué contre les cailloux, dans l'eau, etc. Les secours, c'est 2 à 3 jours. Et ta durée de vie, même avec une combinaison, c'est quelques minutes dans l'eau glacée. Donc, tu sais qu'il n'y a pas droit à l'erreur. En fait, la sanction, elle est tout de suite définitive. Et ce n'est pas comme un aventurier qui marche sur terre. Il sera toujours sur terre quand même. Il pourra toujours mettre sa tente, se protéger. Moi, c'est l'eau et c'est l'eau glacée tout de suite. Donc, c'est vrai que en termes de risque sur la vie humaine, c'était énorme.
La table des gourmands.
De retour à la table des gourmands sur RJB, RTN, RFJ, toujours en compagnie du navigateur Yvan Bourgnon. Alors Yvan, vous l'avez dit, à 4 ans, vous partez avec votre frère et vos parents faire le tour du monde en bateau. Le voyage va durer 4 ans. Comment se déroulaient les repas?
Pendant le tour du monde avec mes parents? Bon, les repas, en fait, c'était ma maman qui cuisinait principalement. Donc, c'est sur un bateau comme ça, il n'y a pas vraiment de frigo, de congélateur. Donc, c'est souvent la première semaine de tous les produits frais. On se régale avec les légumes, avec un peu de viande, avec tout ça. Et puis, au fil des semaines, effectivement, ça commence à se compliquer. Là, on est obligé de passer aux pâtes, au riz, aux pommes de terre, des choses qui se conservent un peu mieux. Donc voilà, mais ça, on a beaucoup pêché. J'ai souvenir que de pêcher quand même énormément des dorades coryphènes, du thon à la traîne. Et donc ça vraiment, voilà, le plat, je crois que le plat répété tous les jours, c'était vraiment poisson et riz. Ça revenait, mais un petit peu à toutes les sauces, grillées, au citron. Et c'était, voilà, on était bien nourris, on avait une vie saine en fait. Hein.
Vous avez donc découvert tôt hein, d'autres saveurs, d'autres cultures. Les plats étaient-ils différents de la cuisine familiale lorsque vous étiez sur terre?
Ben, en fait, je ne sais pas si je peux répondre à la question, parce qu'on mangeait tout le temps sur le bateau en fait. Que ce soit. Non, bah, tu sais, nous, on n'avait pas. Mes parents vivaient avec 1000 francs par mois. Et donc, on allait. Si, on faisait des haltes, mais on n'allait jamais au restaurant. Hein. Ah ouais, non, c'était. On a fait le tour du monde vraiment avec un budget très restreint. Chaque franc était compté, et forcément. Oui, mais bon, on mangeait bien, mais mes parents faisaient très attention. C'est vrai qu'on tenait, en fait, ils louaient leur maison en Bretagne pour 1000 francs et on vivait avec ces 1000 francs autour du monde avec une famille à 4 personnes. Même si c'était dans les années 80, c'est quand même un budget très restreint. Donc on n'avait pas le choix, c'était le plus de poissons possible. On avitaillait évidemment à terre, en fruits, légumes, et voilà, des choses un peu fraîches, mais on mangeait toujours à bord.
Lors de vos voyages à vous, vous avez découvert la cuisine exotique, les autres cuisines. Alors, c'était pendant votre tour du monde à vous?
Alors, j'ai eu la chance de beaucoup voyager toute ma vie, et de beaucoup régater dans le monde entier, effectivement d'aller dans toutes les destinations possibles et inimaginables. Et c'est vrai que c'est un régal quand même de moi je suis champion du monde pour dormir chez l'habitant. Et à chaque fois je me retrouve, voilà, j'ai zéro note d'hôtel, je me retrouve dans les familles, puis tu te retrouves à manger forcément des plats locaux, des spécialités à chaque fois des mamas que tu croises. Et voilà, c'est ça qui fait son charme aussi, c'est que tu découvres des familles, tu découvres des modes de vie, mais tu découvres leurs habitudes culinaires et voilà, tu es souvent agréablement surpris. Moi je. Puis des fois, parfois c'est un petit peu dur. J'ai souvenir du gouverneur en Guadeloupe qui nous avait invités, avec sa femme qui nous avait préparé des acras. Les acras, c'était dans les années 90, c'était pas qu'ils brûlaient la gorge, ça arrachait tout. Il fallait surtout pas faire croire que c'était pas bon et que c'était dur à manger. Non, non, on a avalé comme ça 20, 25 acras chacun. Je pense qu'on a bu au moins presque un litre de rhum chacun pour pouvoir réussir à éponger le feu. Mais donc, du coup, on a eu du mal à repartir de chez le gouverneur. C'était une soirée difficile.
Et d'un autre côté, alors, à contrario, le plat qui vous a le plus surpris? Le meilleur plat que vous ayez découvert, que vous ayez mangé lors de vos voyages?
Le meilleur souvenir pour moi, ce que j'adore, c'est le colombo de poulet au curry. Et c'est vrai que c'est un plat antillais qui m'a toujours fait beaucoup de beaux souvenirs. Et c'est vrai que depuis même mon enfance, j'ai ces saveurs qui reviennent. Et à chaque fois que je prépare ce plat-là à la maison ou qu'on me le prépare, j'ai tout de suite l'impression de replonger dans mes voyages, dans mon enfance. Et voilà, c'est vrai que c'est un plat extraordinaire.
Plat d'ailleurs qu'on va retrouver, hein, puisque c'est la recette que vous nous avez apportée. Alors Yvan, moi j'ai un cliché du navigateur qui est terrible en matière de nourriture. Chaque fois je me dis, mais un navigateur, il mange des Darvida et du Cénobis. Est-ce que vous arriverez à m'enlever ce cliché de cette pâte à tartiner sur des biscottes? J'ai toujours l'impression qu'un navigateur ne mange que cela parce que ça se garde bien. Vous mangez quoi lors de vos exploits, lors de vos traversées?
Je pense qu'on a amélioré quand même nos habitudes culinaires au fil des décennies. Là, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont quand même bien développé les plats lyophilisés, ces plats déshydratés. En fait, c'est simple, c'est des cuisines, c'est des plats qui sont préparés, comme le bœuf bourguignon et tout ça, et qui sont, une fois qu'ils sont préparés, ils sont desséchés, asséchés au maximum pour pouvoir enlever l'eau et la rendre le plat le plus léger possible. Et après, quand nous, on le réhydrate et qu'on le réchauffe sur notre bateau, je ne vais pas dire que c'est aussi bon que le bœuf bourguignon de notre mer, mais franchement, c'est quand même super agréable. Et moi, j'ai souvenir des plats lyophilisés qu'on mangeait il y a 30 ans. C'était une catastrophe. Ça s'appelait Alpinaire. Ça venait de la NASA. C'était les seuls à manger des plats lyophilisés à l'époque. Et c'était immangeable, quoi. Vraiment, là-dessus, on a quand même sacrément évolué et on mange de mieux en mieux. On a aussi, il y a de plus en plus d'aliments qui se conservent quand même bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est viande séchée, la viande de grison. En fromage, on a des babybel qui se conservent bien. On a des fruits secs, évidemment. Donc, on arrive vraiment à maintenant à manger équilibré. Et on n'a plus trop le choix parce qu'on est quand même sur des efforts physiques importants. Et une malnutrition pourrait vite nous emmener à l'erreur.
Le dernier exploit que vous avez fait vous a fait parcourir des kilomètres dans des conditions très difficiles, sans assistance, sans habitacle. Vous étiez seul. On mange comment sans habitacle?
Alors, sans habitacle, on mange de manière compliquée parce qu'au début, j'avais amené un réchaud en fait qui était assez basique, qu'on peut retrouver pour faire du camping. Et en fait, ce réchaud sur un bateau qui bouge dans tous les sens, où il y a des seaux d'eau qui passent sur le pont en permanence, très vite, il était HS. Donc en fait, j'ai trouvé un petit système qui s'appelle Baroku. Et en fait, c'est une espèce de gamelle, ou une double gamelle. Il y a une gamelle en alu dans laquelle tu mets ton plat, ta chaufferette en fait, chimique. Une autre gamelle par-dessus où tu mets le plat lyophilisé. Et en fait, tu mets de l'eau, ça fait réagir la chaufferette. Tu mets de l'eau au-dessus, ça fait hydrater le plat. Tu mets un couvercle comme un tupperware. Et en fait, ça fait cocotte minute, tu attends 10 minutes et ton plat est prêt. Et c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de... Même s'il y a de l'eau, même si ça bouge, ça n'empêche pas le plat de se préparer.
L'alimentation, elle n'est pas la même que lorsque vous êtes sur Terre. Est-ce que vos besoins sont différents au niveau de l'alimentation?
Oui, certaines petites études qu'on a faites montrent qu'on dépense en compétition, c'est à peu près 5-6 000 calories par jour. Donc c'est assez énorme. Moi, j'ai bien vu dans le Grand Nord, j'avais prévu énormément à manger. Et avec le froid, et les angoisses et le stress, j'ai fondu à vue d'œil. J'étais parti avec 12 kilos de trop et je suis revenu avec 12 kilos de moins. Donc du coup, malgré que j'avais l'impression de passer mon temps à manger, on brûle énormément. Mon bateau, il bouge énormément. Il y a toujours, même quand tu dors, en fait, tu t'es secoué dans tous les sens. Donc tu es tout le temps à claquer des dents, à grelotter. Tu es tout le temps à lutter contre le froid. Tu es tout le temps à t'accrocher au bateau. Et puis tu règles, moi sur mon petit kata, je règle les voiles 250 fois par jour. Donc tu fais des efforts physiques en permanence. Non, pour avoir la condition physique, c'est parfait. Hein.
Donc elle est beaucoup plus calorifique. Vous avez besoin de quoi de plus que lorsque vous êtes sur Terre?
J'ai juste besoin de manger plus en quantité, de manger bien. Il faudrait qu'à terre, dans les restaurants, tout ça, on ne mange pas forcément très bien. Donc là, c'est ma petite femme, Géraldine, qui me prépare les plats et qui a un peu quelques connaissances au niveau nutrition et qui essaie de faire des sachets en fait journaliers dans lesquels il y a un plat lyophilisé, un peu de fruits secs, un peu de ci, un peu de ça. Et donc du coup, ça je sais que moi, si je veux vraiment finir ma journée et pas être trop en carence, il faut que j'avale tout ça, quoi. Mais c'est nécessaire. Mais nous, dans la famille Bourgnon, vous savez, on avait fait notamment la Transat Jacques Vabre 97 qu'on avait gagné. Il y avait toute une équipe d'une école de nutrition diététique qui était venue faire analyser tous les skippers. Et donc ils avaient fait 3 mois avant le départ, la veille du départ, 3 mois avant l'arrivée, 3 mois après l'arrivée. Et en fait, sur 40 ou 50 concurrents, il y avait un seul équipage qui avait pris du poids pendant la course, c'était les frères Bourgnon, quoi. On avait réussi à prendre du poids pendant les 15 jours de course. Donc vous avez vu, on ne se laisse pas abattre. Hein.
Et sur Terre, alors, quel genre de mangeur êtes-vous ?
Sur Terre, je suis trop gourmand, ça c'est bien le problème. C'est malgré que je fasse du sport, j'adore les bons repas, j'aborde le chocolat. Je suis un complètement accro au chocolat. C'est ce qui m'a manqué le plus dans le tour du monde d'ailleurs, parce que en fait, avec la chaleur, le chocolat, il fond tout direct. Donc j'ai pas mangé de chocolat pendant presque un an et demi. Et donc du coup, quand je reviens en Suisse, forcément... Je me rattrape un peu trop. La fondue aussi, et ça c'est un plat que j'aime beaucoup préparer d'ailleurs. C'est un peu une recette de transmise de mère en fils. Et puis donc tout ça c'est évidemment pas très bon pour la ligne. Mais voilà, j'essaye de compenser de temps en temps en partant vite en mer pour remaigrir.
Est-ce qu'il vous arrive durant vos périples d'avoir des envies culinaires soudaines ? D'avoir tout d'un coup une senteur et puis de vous dire « Ah, ça, je mangerai bien ».
Oui, en mer, je me suis surpris, en fait, pendant le tour du monde. Au début, en fait, la pêche était très mauvaise. J'étais pas bon. Et puis, petit à petit, au bout d'une semaine de mer, je me suis rendu compte que manger du poisson frais, en fait, ça me redonnait la niaque. Je pense que ça me devait ramener des vitamines que j'avais pas. Et au niveau mental, au niveau moral, ça me redonnait, revitalisait vraiment direct. Et en fait, je me suis surpris dans les navigations qui ont suivi d'avoir ce besoin de pêcher à tout prix pour pouvoir manger du poisson, quoi. C'est pas que j'avais d'autres nourritures à bord et que j'aurais pu compenser avec autre chose, mais je sentais mon corps réclamer ce poisson frais qui était devenu nécessaire dans mon équilibre alimentaire.
Vous n'avez jamais eu, vous êtes sur votre catamaran, puis vous vous dites « Ah, mais là, maintenant, je me ferai ma filet mignon au mori », ça ne vous est pas arrivé ?
Je dois dire que non. En fait, souvent, l'envie d'un super plat, il arrive après l'arrivée. En fait, en mer, ça se passe bien, on est concentré, on est sur notre compétition, on est sur notre objectif. Manger, ça, c'est un peu... C'est un peu réducteur, mais c'est presque devenu juste une nécessité absolue d'alimenter son corps. Mais tout d'un coup, l'envie culinaire revient vraiment quand on repose, dès qu'on repose les pieds à terre et qu'on va au premier restaurant. Là, par contre, on voit des odeurs, des senteurs. Et là, on a envie d'un grand steak, de choses un peu... Tout de suite, on est réattiré par la nourriture. Ouais.
Pendant vos voyages, hein, vous devez manger pour garder les forces morales et physiques. Est-ce que c'est difficile de justement se nourrir, ne pas oublier de se nourrir ?
Alors ça, je sais que c'est le cas de pas mal de navigateurs qui oublient de s'alimenter correctement et qui perdent beaucoup de poids. Mais comme je disais tout à l'heure, nous, les Bourgnons, on ne s'est jamais laissé abattre. On est des grands gourmands. Et moi, la seule fois où j'ai dû réduire, c'est parce que j'avais pas assez de nourriture pour finir. Ça a été le cas dans le Grand Nord. J'ai mangé tellement au début, mais le défi a duré tellement plus longtemps que prévu que j'ai dû réduire ma quantité de nourriture. Et donc, c'est pour ça que j'ai maigri aussi. Mais sinon, non, j'oublie pas de manger, non. Ça, c'est plutôt le contraire qui se passerait. Ce serait bien que de temps en temps que je saute à repas pour être un peu moins gourmand.